Mais avant de me lancer, je voudrais faire trois petites remarques. Enfin, une remarque générale et puis ensuite trois remarques pour introduire mon propos. La remarque générale, si vous voyez bien la difficulté et en même temps l'enjeu du sujet, parler de l'intimité, c'est ce qu'il y a de plus difficile et ce qu'il y a de plus nécessaire. Vous proposez tous ensemble une soirée sur l'intimité, il y a un côté un peu paradoxal. Un peu volontaire. Et donc, ce que je voudrais essayer, moi, qui ne suis pas en couple, même si j'ai des frères et même si j'ai le bon Dieu, il y a plein de choses qui se ressemblent, il y a plein de choses différentes. Ma posture, c'est d'essayer d'éclairer ce que Aurore et Arnaud ont dit avec mes mots maladroits de philosophe et de théologien et de chrétien et de religieux, pour vous donner un éclairage plus par l'intelligence, mais un éclairage qui voudrait aussi essayer de toucher votre cœur. Et c'est ça le défi en un tout petit peu plus qu'un quart d'heure. Si vous avez envie d'écouter ce que je raconte, profitez-en. On mettra le texte du topo sur le site, donc vous pouvez écouter sans être accroché à votre crayon si ça vous repose, quoi. Donc les trois remarques. Une remarque étymologique, qui est hyper intéressante déjà. Moi, je m'occupe des mots en tant que philosophe. L'intimité, vous savez d'où ça vient, le mot intimité. Donc il y a l'intimité comme nom qui est intimitas, mais l'adjectif c'est intimus. Intimus, c'est le superlatif de intus. Intus, intimor, intimus. Donc ce qui est à l'intérieur, le superlatif latin de ce qui est à l'intérieur, ça veut dire ce qui est le plus à l'intérieur. Et ça c'est déjà hyper intéressant. Et l'intimité, c'est ce qui est le plus à l'intérieur de mon cœur. Le grand Robert de la langue française, moi j'ai pas pris de littré, ce qui est contenu au plus profond d'un être est lié à l'essence de cet être et généralement secret, invisible, impénétrable. Vous voyez comme c'est compliqué de partager une intimité alors que c'est justement ce qui est secret en moi. Ça c'est la remarque étymologique. La remarque anthropologique, eh bien j'ai envie de dire s'il faut essayer de définir l'intimité, la définition que j'ai cherchée, ce serait de dire eh ben, l'intimité c'est la qualité de ce qui est intime. Et donc l'intimité, c'est la qualité de quelque chose, c'est la qualité d'un amour. Et le fait de parler de qualité, c'est justement ce qui permet de faire le lien de l'intimité à l'amour. L'intimité, c'est la qualité d'intériorité de l'amour. L'amour implique de se donner, mais il ne peut se donner, vous l'avez très bien dit, que s'il vient de l'intérieur. On ne peut pas dire à l'autre, juste avec des mots, avec des gestes qu'on ne pense pas, « je t'aime » si on n'est pas en train de le vivre. Donc l'amour demande de venir de l'intérieur, et c'est l'intimité qui est ce lieu d'intériorité. Et cette intériorité, vous l'avez aussi très bien montré, elle réclame de se partager pour grandir. L'intimité conjugale, elle grandit en se partageant, et c'est en se partageant qu'elle se construit. On pourrait dire qu'être intime, c'est le contraire d'être égoïste, c'est choisir de se mettre avec tout son être au service de l'intériorité de l'amour de l'autre. Être le plus soi-même de l'intérieur dans le couple, c'est choisir d'aller à la rencontre de l'autre. Ça, c'est la deuxième remarque. Et la troisième remarque, et vous en avez parlé aussi avec vos mots à vous, et j'ai trouvé ça hyper beau la manière dont vous avez tissé ça aussi à différents moments de votre témoignage, c'est de dire que pour nous, chrétiens, l'intimité humaine et l'intimité surnaturelle sont intriquées. Et quand on travaille à l'une, on travaille à l'autre. On n'a qu'un seul cœur pour aimer Dieu et pour aimer son conjoint. Plus j'aime mon conjoint, plus ça m'aide à aimer Dieu, normalement, et plus j'aime Dieu, plus ça doit me renvoyer à un amour de mon conjoint qui grandit. Et donc, les petits textes bibliques que j'avais donnés à Arnaud et Aurore, je vais les reprendre en essayant de qualifier à travers chacun de ces textes un aspect de l'intimité pour essayer de voir comment, justement, Dieu nous dit quelque chose sur cette intimité. Alors, si vous cherchez voilà, des choses... Il faut lire le petit bouquin de Philippe Lefebvre, qui est un dominicain qui enseigne l'Écriture sainte, l'Ancien Testament, à l'Université de Fribourg, en Suisse, en français. Il a écrit un petit livre dont j'oublie tout le temps le titre. Mais si vous voulez découvrir des choses sur l'intimité du couple dans la Bible, vous n'avez que des choses assez effrayantes dans la Bible. Il y a des viols, il y a des incestes, il y a des infidélités, etc. Donc ça ne va pas vous donner la doctrine, la bonne doctrine que vous auriez envie de transmettre à vos enfants qui sont ados en disant que tout doit être droit et tout doit être carré. La Bible, elle ne raconte pas ça sur l'intimité. Donc vous voyez, c'est complexe d'aller chercher dans la Bible des textes qui parlent de l'intimité en bien, parce que l'intimité conjugale qui nous est révélée, elle est plus complexe que ça. Alors, je vais regarder ces cinq petites citations que Arnaud et Aurore ont citées, et je vais essayer de les qualifier du côté de l'intimité. Donc, la première, ça va être une petite citation de la Genèse. « Dieu créateur tisse l'intimité du couple. » Je vais vous redonner les citations après, mais là, je vous donne le titre. « Dieu créateur tisse l'intimité du couple. » Ça va être mon premier petit point. Ensuite, le deuxième point, ça va être l'intimité entre Dieu et son peuple infidèle. Vous voyez qu'il y a, on voit dans la Bible une intimité asymétrique, un amour asymétrique, que Dieu reste fidèle quand le peuple d'Israël est infidèle. Ensuite, dans le Cantique des Cantiques, on voit l'intimité entre Dieu et l'âme. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette intimité de la présence de Dieu, et qu'est-ce qu'elle nous dit de nos intimités humaines? Ensuite, je vais regarder l'intimité de la Sainte Famille avec un texte extra-biblique que je vais vous citer, un texte que j'aime beaucoup. Je vais faire de la pub pour un livre. Je n'ai pas d'action chez Gallimard, mais je vais quand même vous faire de la pub pour ce livre parce qu'il est absolument extraordinaire. Et puis, donc je ne vous cite pas le texte que je vais vous lire tout à l'heure, je vais vous le faire découvrir en live. Donc l'intimité de la Sainte Famille à l'aune d'un texte que vous ne connaissez sans doute pas. Si vous le connaissez, je pense qu'il vous aura plu autant qu'à moi. Et donc le cinquième point, ça sera l'intimité dans les personnes divines et quelles conséquences pour le couple. Mon étiquette se décolle. Premier point, très rapide. Dieu créateur tisse l'intimité du couple. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, se dit Dieu, je vais lui faire une aide qui lui soit assortie. Vous voyez tout de suite le problème. Moi, je vois un énorme problème quand je lis cette citation et que je vous vois en face de moi ce soir, et à chaque fois que je parle à des couples. C'est que vous aurez repéré, et Arnaud et Aurore ont eu la pudeur de le dire avec l'histoire de leur vie à eux, mais vous sentez la distance infinie qui sépare ce plan de Dieu sur Adam et Ève de la manière dont vous vivez vos couples. Parce que Dieu a choisi la femme pour l'homme et l'homme pour la femme dans ce dessin originel où il a créé Adam pour cette Ève-là, et il a créé cette Ève-là pour cet Adam-là. Mais Dieu n'a pas fait ça avec vous. Dieu ne vous a pas créé l'un pour l'autre. J'y crois pas une seule seconde. Même si c'est beau et que c'est romantique. Dieu vous a laissé la liberté de vous choisir. Il a pris un risque énorme. Il a attendu 8 ans que Arnaud et Aurore se disent oui. C'était un tout petit oui, mais qui a grandi jusqu'à aujourd'hui et qui est devenu un oui géant et une famille et une vie sociale et des engagements dans l'église et des amis et les frates, etc., etc. Et donc la différence énorme, vous voyez, c'est que vous n'êtes pas dans cette posture d'être comme deux morceaux du puzzle déjà pensés l'un pour l'autre. Et vous l'avez dit de manière aussi très belle, c'est que cette intimité, elle va se construire toute la vie jusqu'à votre dernier souffle. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre depuis le départ, à la différence d'Adam et Ève. Et ça, c'est pas si simple à gérer dans votre quotidien. En étant engagé dans les frates, je le vois bien qu'un couple, c'est pas la chose la plus évidente de la Terre. Et alors, ce qui est très étonnant, vous voyez, c'est que cette intimité originelle, c'est Dieu qui la suscite de l'intérieur. Dieu prend une côte qui est quelque chose d'intérieur et il forme la femme de l'intérieur de l'homme, pas de l'extérieur. Il dit pas à l'homme, fais-moi une statue et je vais lui donner vie. Et comme dans Pinocchio, ou enfin, dans tous les contes ou toutes les histoires qu'on lit aux enfants. C'est de l'intérieur de l'homme qu'il va faire naître une aide qui lui soit assortie. Et cette correspondance, elle naît de l'intérieur. D'où la nécessité, vous l'avez souligné, de l'intimité pour que l'amour puisse grandir. Il faut l'amour pour l'intimité, mais il faut aussi l'intimité pour l'amour. Parce que sinon, eh bien, on reste extérieur l'un à l'autre. On peut vivre poliment l'un à côté de l'autre, toute une vie, en s'ignorant superbement du côté de l'intimité. Alors aujourd'hui, dans notre génération, on a un peu plus de mal à rester ensemble toute une vie comme ça, mais quand même. Et donc, osez regarder dans nos vies et dans vos couples que cette intimité, elle est à la fois, cette complémentarité entre l'homme et la femme, elle est voulue par Dieu, mais la manière ou la couleur de cette complémentarité qui est la vôtre, de cette intimité qui est la vôtre et de la croissance de cette intimité qui vous est confiée, eh bien Dieu ne vous remplacera pas. Et il ne remplacera pas votre liberté, vos erreurs, vos lenteurs, vos coups de foudre, vos traits de génie l'un pour l'autre. Et donc ce premier récit, il met le couple originel en chemin pour devenir responsable et devenir de plus en plus ce que Dieu veut qu'il soit. Et c'est pour ça que Philippe Lefebvre, au début de son petit bouquin sur le couple, il dit « En fait, moi je ne me fais plus inviter dans aucun groupe pour parler du mariage », dit-il. Parce que quand j'explique ce que c'est que le mariage à l'aune de la Bible, eh bien Dieu vient habiter les échecs pour en faire quelque chose. Mais Dieu ne vient pas supprimer les échecs. Et Dieu ne vient pas montrer que ce qui est beau dans le mariage. Il laisse à l'homme son cœur et son cœur, il est beau et misérable à la fois. Vous voyez, dans l'histoire de pédophilie dans l'Église, on entend ces jours-ci, y compris de cardinaux, il y a des bons prêtres et des mauvais prêtres, des bons évêques et des mauvais évêques. J'admire celui qui ose dire ça. Parce que, on est de quel côté ? Est-ce que vous êtes un bon couple ou un mauvais couple ? Est-ce que je suis un bon prêtre ou un mauvais prêtre ? On entendait chez Aurore Ernaud, je vous rassure, c'est dans les couvents aussi. Il y a des jours où on est de bonne humeur et on est un bon frère, et puis il y a des jours où on est de très mauvaise humeur, on est un très mauvais frère. On se met un petit mot en mettant plus d'intitulé pour se parler, en disant « est-ce que tu peux faire ça ?»« Mets la voiture au garage. » Comme dans un couple, hein. On se met des post-it sur le frigidaire. Ça existe aussi chez nous, ça. Donc vous voyez, Dieu tisse l'intimité du couple, mais à l'école de vos initiatives. Et c'est ça que je voudrais essayer de vous montrer à travers ces cinq petits passages bibliques, très très rapides, c'est que Dieu se cache au creux de l'homme, et l'homme se cache au creux de Dieu. C'est pas « faisons d'abord tout ce qui est dans notre pouvoir, et Dieu va venir répondre à ça », ou « laissons Dieu tout faire, et puis nous on va tirer les conséquences de ça ». Non, à chaque instant de votre couple, de votre cœur, de votre vie, de vos décisions, de vos engagements, il y a Dieu et il y a vous. Ça vous rappelle en petit ce qui existe en grand et qui s'appelle le mystère de l'Église. Je vais vous développer ça parce que sinon on a pour toute la nuit. Juste le verset 22, le Seigneur Dieu bâtit le côté qu'il avait pris de l'Adam, qui n'est pas un nom propre, qui est un nom générique, on pourrait dire de l'humanité, ou même ça veut dire la terre. Donc Dieu forma la côte qu'il avait pris de cette matière informe en une femme et l'amena vers l'homme. Et le féminin apparaît aux côtés du masculin. Isha, la femme, la racine est formée, c'est comme en français époux et épouse, le mot épouse est formé sur le mot époux, l'un appartient à l'autre. Dans le plan de Dieu, l'homme et la femme sont faits pour s'appartenir. Mais encore une fois, c'est pas donné le jour de votre mariage. C'est à construire chaque jour. J'ai accompagné un couple dans la préparation de son mariage, ça a duré pas autant que vous, mais ça a duré assez longtemps aussi. Et ils m'ont dit, seulement, ils m'ont dit à l'entrée dans l'église, on n'est encore pas sûr. Le jour de leur mariage, ils m'ont dit, on n'est encore pas sûr qu'on ait fait l'un pour l'autre. Et à la sortie de l'église, après le mariage, ils se sont mis à pleurer tous les deux, en se tombant dans les bras l'un de l'autre, et en disant, maintenant qu'on a confié notre amour à Jésus, on sait qu'il va nous accompagner. C'était un couple compliqué, hein. Vous n'avez pas donné trop de détails, mais eux, le problème, c'est que ce qui ne lui plaisait pas chez lui, c'est qu'elle avait des lunettes, qui étaient des lunettes un peu vertes, avec des petites, assez artistiques, et donc ça ne lui plaisait pas. Il disait, quand je vois ces lunettes, en fait, je me dis que je ne pourrais pas vivre avec une femme qui porte ses lunettes tous les jours, quoi. Vous voyez, l'intimité que Dieu veut pour votre couple, elle est à l'aune de vos énervements, de vos différences et tout ça. Et ce « une seule chair » que Dieu va faire au verset 24 du chapitre 2, « l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair », eh bien, dans le « une seule chair » biblique, dans le corps, vous voyez, dans cette corporéité, je ne sais pas comment il faut le dire, il y a toute la personne. Le corps dit toute la personne. Et donc l'intimité que Dieu veut éduquer en vous, elle passe par toute la personne, du plus spirituel au plus concret. Deuxième petit point, l'intimité entre Dieu et son peuple infidèle à partir du livre d'Osée. Ce qui est très étonnant dans le livre d'Osée, qui est un prophète qui vit au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est que Dieu va lui demander d'incarner dans sa vie la vocation de ce que Dieu lui-même vit avec Israël. Et donc, Dieu va demander au prophète Osée d'aller choisir comme épouse une prostituée. La prostitution dans la Bible, les deux grands sens, c'est la prostitution au sens courant du terme, sens sociologique, et puis c'est le fait de se détourner de Dieu. Et donc, Dieu demande à un prophète qui n'est pas encore marié d'aller chercher comme épouse une prostituée pour que ce mariage bizarre voulu par Dieu devienne le signe de l'alliance de Dieu fidèle avec une épouse infidèle. C'est aussi ça, l'intimité que Dieu veut créer. Et dans toutes ces paroles, le Cantique des Cantiques est une histoire d'amour qui est composée de cinq chants, de cinq petits chants païens qui ont été récupérés par la Bible et transformés, mais à l'origine, on le sait très bien, ces cinq petits textes qui forment le Cantique des Cantiques ne sont pas écrits comme un texte qui parle de l'amour de Dieu. Quand vous regardez la manière dont l'époux décrit son épouse, c'est assez concret, c'est assez cru, c'est érotique, on peut le dire comme on veut. Ça dit un amour humain très charnel, très, très sensuel, on pourrait dire très concret. Et les auteurs inspirés de l'Ancien Testament ont récupéré ce texte-là pour en faire quelque chose d'autre. Alors, avant de passer au Cantique des Cantiques, je vous dis juste ce petit passage du livre d'Osée, au verset 16 du chapitre 2, c'est pourquoi je veux séduire cette épouse infidèle. C'est Osée qui parle au nom de Dieu de son épouse. Je veux la séduire et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et je ferai de la vallée d'Accor une porte d'espérance. Aurore et Arnaud, vous avez parlé de l'espérance à travers aussi les difficultés de la croissance d'un couple. Là, mon épouse chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Vous voyez là, dans cette parole, qui est une parole de Dieu, la sortie d'Égypte, ça fait partie de l'identité d'Israël, la sortie de l'esclavage, conduit par Dieu au désert pour découvrir quelque chose de nouveau. Et bien, cette histoire humaine devient habitée dans le livre d'Osée par quelque chose qui est le regard de Dieu. Moi, je trouve ça hyper beau de se dire ça dans son couple et dans sa vie tout court, que l'histoire de ma vie, elle est regardée par Dieu de l'intérieur comme un chemin de libération pour entrer dans une intimité avec Dieu. On peut en dire beaucoup de choses, mais... Et donc l'intimité qui est déployée là, vous voyez, c'est une intimité qui passe aussi par la souffrance. L'intimité, ce n'est pas que les beaux moments d'intimité, et Arnaud et Aurore, et je pense que chacun de vos couples pourrait le dire aussi de manière très belle. C'est que l'intimité, elle se vit aussi dans les épreuves, dans les moments où on choisit de continuer à découvrir de l'intérieur quelque chose qui n'est plus évident. Pour l'épouse du livre d'Osée, pardon, le lieu de détresse, ce désert, devient ce lieu de la vie retrouvée, comme au jour de sa jeunesse. L'intimité du cœur ouvre tous les possibles. Elle ouvre l'espace pour s'accueillir en profondeur. Cette intimité, elle permet de se donner à l'autre dans ce qu'on est de plus profond. Elle est aussi un lieu pour se pardonner. Et peut-être que Osée, voyez, appelle chacun des couples que vous êtes à créer un espace de désert, comme ce soir, où vous sortez de votre quotidien en casant le moins mal possible vos enfants, pour vous donner à vous-même une liberté de respiration intérieure. L'intimité entre Dieu et l'âme dans le Cantique des Cantiques. Je reprends le même passage qu'on a partagé avec Aurore et Arnaud. « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. » L'intimité qui est mise en scène dans le Cantique des Cantiques, c'est celle du cœur, des émotions et des sentiments. Le corps est en repos, mais le cœur reste tourné vers celui qu'on aime. Tu parlais, Arnaud, tout à l'heure de l'éloignement géographique pour le métier, les expatriés géographiques, ça vous arrive à tous les âges de la vie, et aujourd'hui, dans un monde économique en mutation, ça vous réarrivera à l'âge de la maturité aussi. Eh bien, comment construire une intimité qui demeure quand on est éloigné une bonne partie de la semaine, ou peut-être même quelquefois pendant des semaines ou des mois, pour ceux qui ont des métiers militaires ou d'autres, ça peut arriver. Ce nombre infini de raisons qui peut permettre un éloignement du corps, il n'est pas forcément un éloignement du cœur si on invente dans chaque couple une manière de rester tourné à l'intérieur vers celui qu'on aime. Et la deuxième chose que souligne le Cantique des Cantiques, c'est qu'il n'y a pas d'intimité sans réciprocité. Si on a un des deux qui a envie d'être intime avec l'autre et de partager quelque chose de très profond et que le deuxième ne le fait pas, eh bien, on reste un peu avec son désir de partager quelque chose qui n'aboutit pas. Et ce que nous montre le Cantique des Cantiques, je passe très vite, j'avais encore plein d'autres choses à vous dire, mais ce n'est pas grave, vous les lirez. Le Cantique des Cantiques nous montre avec force comment il faut oser partir de l'intimité du cœur pour que toute la personne puisse être touchée par l'autre. Vous voyez, on a du mal, et Arnaud et Aurore le disaient tout à l'heure, on a du mal à parler avec notre cœur. On parle tous avec notre intelligence. Quand on me demande qui je suis, des gens qui ne me connaissent pas, je dis ce que je fais dans la vie, moi aussi comme religieux. J'ai plus de mal à me présenter avec les qualités de mon cœur ou les défauts de mon cœur ou les limites de mon cœur. Arriver à parler avec son cœur en disant « moi, je suis quelqu'un d'ultra sensible. Moi, j'ai besoin de douceur dans la vie. » Quand j'en ai marre de mon prieuré, je viens dîner chez Aurore et Arnaud, ou je viens dîner chez Marc et Valérie, je viens dîner chez des amis qui m'invitent et qui me font passer une soirée sans mes frères, quand j'en ai ras-le-bol de mes frères. Ben, j'ai du mal à me présenter comme ça auprès de gens que je ne connais pas. Et bien pourtant, c'est comme ça que Dieu me regarde, dans ce que je suis dans mon cœur, dans ce que je porte en moi de profond, dans ce qui est difficile de partager et que pourtant je peux partager parce que c'est ça qui va nourrir le cœur des autres. Le bien-aimé dit dans le Cantique des Cantiques « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie ». Les exégètes ont beaucoup travaillé là-dessus en disant « Il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire dans le Cantique des Cantiques ». C'est que la manière dont l'époux et l'épouse parlent l'un de l'autre n'est pas identique. L'époux parle de son épouse comme sa sœur, comme son épouse, et la fiancée parle de son époux comme celui qu'elle voudrait amener dans la chambre de sa mère pour le présenter à sa mère comme son fiancé. Donc il y a une dissonance. Dieu, qui est l'époux, regarde l'épouse que nous sommes totalement comme une épouse, mais l'épouse a du mal à regarder son époux comme un époux. Elle le désire comme un époux, mais elle n'ose pas s'adresser à lui comme un époux. Le Cantique des Cantiques nous dit aussi quelque chose de cette dissymétrie bienveillante de Dieu qui donne plus qu'il ne reçoit. Dieu nous donne tout, et nous lui donnons bien peu. Et bien pourtant là-dedans, il y a un appel de Dieu à l'intimité, à nous laisser éduquer par quelque chose qui est à l'intérieur de nous, individuellement et en couple. Vous aurez remarqué que la prière du couple n'est pas ce qu'il y a de plus facile à vivre. Pourquoi ? Parce que vous êtes deux intimités, l'une à côté de l'autre, qui avaient du mal à vous laisser habiter ensemble par l'intimité de Dieu. Donc, je ne vous donne aucune réponse sur comment prier en couple, ce n'est pas le but de ce soir. Je vous souligne juste que n'ayez pas peur de ça, ça veut dire que l'intimité de Dieu est à l'œuvre dans vos couples. Et pour ça, pour pouvoir vivre cette intimité, eh bien, il faut vivre au niveau de son cœur, en face de soi-même, et c'est ça le plus difficile, en face de l'autre et en face de Dieu. J'ai presque fini. Le quatrième texte que je voulais vous citer, c'est un texte d'Eri De Luca. Qui connaît Eri De Luca? Une tête de nuage. Eri De Luca, c'est un métallurgiste italien qui vit encore et qui, dans une deuxième vie, il est agnostique, s'est mis à lire l'Ancien Testament en araméen et en hébreu, en apprenant ça tout seul comme un grand, et donc il fait une heure de lectio divina sur la Bible tous les matins en hébreu, sur l'Ancien Testament, et il écrit des petits bouquins, et donc il en a écrit un absolument extraordinaire, qui est Une tête de nuage. C'est un dialogue entre Marie et Joseph. Voilà, il se parle, et en fait vous découvrez l'intimité de Marie et Joseph. Alors c'est romancé évidemment, mais c'est hyper beau, et je ne sais pas, comme un agnostique, j'ai encore jamais découvert rien de mieux. Alors je vous lis juste un échange entre Marie et Joseph, recomposé par Eri De Luca, et qui dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc je vous lis le texte. Alors vous voyez, il faudrait que je vous présente le texte, mais Joseph de Bethléem était un juif de bonne famille. Il comprenait parmi ses ancêtres David, Salomon et d'autres noms illustrés. Je vous lis juste ce début. En hébreu, Joseph se dit Yosef, du verbe Yazaf, et Yazaf, qui est la racine du mot Joseph, ça veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire ajouter. Joseph, toute sa vie, il va être celui qui a l'impression d'être de trop dans la sainte famille. Alors, je vous cite à Bethléem, comment il parle à Marie. Parfois, je ne te reconnais pas, Myriam. Je me dis, écoutez la manière dont un époux parle à son épouse. Ça vous donnera des idées si vous n'avez pas. Je me dis, donc c'est Joseph qui se parle à lui-même à voix haute, mais il parle à Marie, mais c'est elle, la jeune fille que j'ai connue au puits où je vendais mes seaux en bois. Alors, c'est ça qui est hyper beau. Il m'arrive d'être déconcerté par tes paroles, comme un naïf admis à la table d'une reine. Ton cœur est éclairé comme celui du roi Salomon. À mes questions stupides, tu ajoutes des réponses qui comblent mon souffle. Je t'aime avec la crainte de te perdre et avec l'impression que tu gaspilles ta valeur près de moi. Vous voyez, c'est hyper beau d'entendre Saint Joseph qui dit ça à Marie. Vous voyez, ben, messieurs, est-ce que vous allez réussir à inventer une parole comme ça pour votre épouse? Écoutez, Marie, je ne connais pas les phrases de l'amour écrites par les poètes et je ne peux donc faire de comparaison. Mais je sais que pour moi, il n'existe pas de phrases d'amour aussi parfaites que les tiennes, Joseph. Donc la réponse de Marie, elle est plus sobre, il y a d'autres très belles de réponses de Marie, mais voilà, je ne veux pas vous déflorer ce petit livre absolument extraordinaire. Eri De Luca, Une tête de nuage. Ah, il en a écrit une quinzaine, des petits bouquins, mais c'est celui-là le plus beau pour entendre. Vous allez assister à la naissance en live de Jésus, vous allez pleurer sa race, comme disent les jeunes, quand vous allez voir Marie et Joseph qui vous racontent ce qui se passe dans la crèche. Voilà, qu'est-ce qui se passe là-dedans, au-delà de l'aspect un peu poétique du texte que je vous livre, et j'ai quasiment fini, c'est l'intimité de l'esprit biblique qui est mis en scène, c'est-à-dire de tout l'homme par le haut. Dieu regarde l'homme par le haut, Dieu regarde Joseph et Marie par le haut, Dieu regarde la Sainte Famille par le haut, et Dieu regarde votre couple par le haut. Et je me sers du cinquième point comme une conclusion. L'intimité des personnes divines et l'intimité du couple, je vous invite à relire tout le chapitre 17 de l'Évangile de Saint Jean, Vous savez qu'on a plus deux grandes prières de Jésus dans le Nouveau Testament. On a le Notre Père qu'on prie à la messe, et puis on a cette prière dont l'Église ne sait pas bien faire, ne sait pas bien quoi faire. Le chapitre 17 de l'Évangile de Saint Jean, composé de trois parties. Jésus prie pour lui, Jésus prie pour ses apôtres, et Jésus prie pour ceux qui croiront en son nom. Et dans cette dernière partie, eh bien, Jésus dit que tous soient un, comme Père tu es en moi et moi en toi. Et moi, quand je lis cette parole, quand j'ai lu cette parole de l'Évangile de Saint Jean en pensant à ce petit enseignement que je devais vous faire ce soir, eh bien, je me dis, c'est la manière la plus extraordinaire de parler de l'intimité tout court, de l'intimité des personnes divines, de l'intimité du couple, de l'intimité des gens qui sont des amis, toi en moi et moi en toi. Est-ce que vous avez ce désir de porter l'autre au plus profond de votre cœur, dans ce plus intime, dans ce superlatif de l'intérieur qui est l'étymologie du mot intime, et de vouloir vous nicher dans le creux le plus intime du cœur de l'autre? Et comment vous allez faire pour nourrir ça? Eh bien, l'intimité des personnes divines, ce plus grand mystère qui est l'amour entre le Père et le Fils éternel, eh bien, il nous est aussi donné, puisque Jésus nous dit que cet amour entre le Père et le Fils, il descend chez nous. Jésus dit: moi en eux, au verset un peu plus 23, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Donc l'unité entre le Père et le Fils, eh bien Jésus va la vivre en nous, et il va nous demander de la vivre entre nous, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'intimité la plus grande de Dieu, eh bien c'est l'intimité la plus personnelle qui peut exister dans tout le monde et dans tout l'univers. Eh bien c'est cette intimité-là que vous êtes invité à vivre. Dieu ne veut pas pour vous moins que ce qu'il veut pour lui, toi en moi et moi en toi. Quand vous ne savez plus quoi vous dire, dites-vous juste ça. Est-ce que tu veux bien être en moi? Est-ce que tu veux bien que je sois en toi? Si vous le choisissez avec le cœur, vous verrez que c'est une parole hyper belle qui vous invite à aller redécouvrir et renourrir dans l'autre ce qu'il y a de plus beau dans son cœur et de recevoir ce qu'il y a de plus beau dans le cœur de l'autre. Voilà, on aurait pu dire encore plein d'autres choses, j'avais encore préparé plein d'autres choses, mais c'est des toutes petites bribes, vous voyez, c'est difficile de parler de ça, mais en même temps, je pense que ces petites paroles bibliques, elles nous disent quelque chose du mystère de Dieu, de cette intimité de Dieu avec nous, de cette intimité de Dieu avec notre couple, de cette intimité du couple en Dieu, où les choses ne sont pas séparées, mais justement intrinsèquement unies les unes aux autres. J'ai fini.